Europe 1.
Punchline. Laurence Ferrari.
Et on se retrouve pour nos débats de Punchline avec Prisca Thévenot, porte-parole de La République En Marche, qui est avec nous. Bonsoir, merci d'être resté. Céline Hervieux, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire national du Parti Socialiste. Patrick Caram, vice-président libre de la région Île-de-France. Bonsoir. Bonsoir à vous. Et François Pupponi, député apparenté Modem du Val-d'Oise. Un plateau 100% politique. On va commencer à évoquer ce pass sanitaire qui pourrait être allégé. C'est en tout cas le souhait d'Emmanuel Macron. Nouveau conseil de défense mercredi qui va décider de la marche à suivre pour les prochains jours. On sait aussi qu'il y a le risque d'avoir une loi qui pourrait permettre de proroger ce pass sanitaire au-delà du 15 novembre et en même temps de l'adapter afin qu'il soit plus souple. Écoutez la réaction de Fabien Bazin, qui est le président du conseil départemental de la Nièvre et qui trouve que c'est bienvenu, cet allègement du pass sanitaire.
On demande au gouvernement de regarder la réalité sanitaire du terrain. La situation dans des villes comme Paris, Lyon, Marseille et celle de la Nièvre est évidemment différente en termes de fréquentation. Dans des restaurants, on voit bien que ça n'a pas de sens quand vous avez trois personnes attablées à une terrasse et à qui on va demander le pass sanitaire alors qu'il y a 5 mètres entre le couple et la personne qui est en train de siroter son café. C'est de la science-fiction. On peut tout à fait penser que dans un territoire comme celui de la Nièvre, une levée partielle, voire totale, des mesures, et je pense singulièrement au pass sanitaire, serait de bon aloi dans la mesure où on est à un niveau aujourd'hui de circulation du virus qui le permet, bien sûr.
Voilà, Fabien Bazin, au micro de Nicolas Feldman. Patrick Caram, de la région Île-de-France. Il faut le rendre un tout petit peu à géométrie variable, ce pass sanitaire. On l'allège dans les régions où le virus ne circule pas, mais quitte à le remettre si la situation dérape à nouveau.
En fait, nous avons toujours demandé la territorialisation des mesures. C'est une demande constante des collectivités territoriales, Valérie. Valérie Pécresse elle-même l'a portée au plus haut niveau de l'État auprès du Premier ministre. Et c'est vrai qu'on avait toujours ce sentiment qu'on n'y était pas, qu'on le faisait parfois, mais pas toujours, et que lorsqu'il y avait eu à Marseille des mesures drastiques, on avait dit, ouais, mais les Marseillais avaient dit, ouais, mais là, ils avaient rejoué le match Paris-Marseille, ils avaient dit Paris. Ça avait échaudé le gouvernement, et ils étaient revenus à une sorte de conception un peu monolithique, un peu un bloc de cette question sanitaire. C'est bienvenu. Moi, je dois dire que c'est important de territorialiser les mesures. Quand vous voyez qu'aux Antilles, aujourd'hui, la situation est difficile, en Guyane ou ailleurs, il faut peut-être maintenir une vigilance accrue. Et quand ailleurs, vous n'avez aucune raison de maintenir des règles un peu plus strictes, levons les éléments. Deuxième élément, moi, juridiquement, il y a un sujet quand même. Et peut-être est-ce la raison aussi pour laquelle le gouvernement commence à regarder les choses? Il veut inscrire dans le temps cette question d'état d'urgence sanitaire. Mais pour ça, il y a la proportionnalité. Ça veut dire qu'il ne peut pas. Ben, ça veut dire qu'il doit tenir compte de la situation. Il ne peut pas prendre des mesures strictes partout, tout le temps, sur tout le territoire. Je veux dire que ça ne peut pas s'inscrire dans le temps avec la même rigidité. Et donc, il tient compte de ça. Et puis, la troisième mesure, c'est l'acceptabilité
de ces
il faut
mesures,
de
oui.
ces mesures-là. Il faut dire aux gens, ben, quand les choses vont mieux, on allège. Si ça ne va pas mieux, on peut être amené à reprendre et à restreindre la situation.
D'accord, mais ça pose le problème, François Pupponi, du stop and go. C'est-à-dire, OK, on vous allège ça là, maintenant, parce que ça va bien, mais si ça repart, vous allez reprendre le pass sanitaire. Il n'y a pas de cohérence, au fond, dans
cette stratégie. Mais non, c'est-à-dire que le gouvernement s'adapte, et c'est normal, à la situation. On a voté le pass sanitaire, je rappelle, rapidement, fin juillet, dans les conditions législatives compliquées. On a fait ça de l'urgence, en 48 heures, avec le Sénat. Ça a marché puisque les Français se sont vaccinés. On constate que la situation sanitaire s'améliore. Et donc, le gouvernement a deux obligations. À la fois de faire revoter une loi pour lui donner la possibilité de maintenir le pass sanitaire si besoin après le 15 novembre.
Et l'état d'urgence aussi.
L'état d'urgence aussi, puisque à chaque fois, c'est le Parlement qui donne la date de l'état d'urgence. Mais tant que l'épidémie n'est pas terminée, on doit être sous l'état d'urgence. Ce qui fait quand même beaucoup maintenant. Ça va faire presque 2 ans quand même. C'est une situation quand même atypique. Mais parallèlement à ça, on peut prendre des mesures territorialisées qui ne s'imposent pas lorsque, effectivement, la situation s'améliore. Aujourd'hui, c'est les préfets souvent qui prennent des décisions parce qu'on avait, dans le cadre de la loi, permis à ce qu'il y ait des possibilités...
Même sur le pass sanitaire ?
Même sur pour le pass sanitaire, c'est le gouvernement. Mais on va pouvoir assouplir. Et là, ce sera les préfets qui décideront, selon les cas, d'assouplir la règle du pass sanitaire en fonction de la position de leur propre département.
C'est Hervieux du Parti Socialiste. Il faut alléger ce pass sanitaire, le rendre souple, plus souple ?
Oui, je pense que c'est bienvenu. En effet, nous, vous savez, au Parti Socialiste, on était opposés à ce pass sanitaire depuis le départ. En réalité, on avait demandé la vaccination obligatoire pour tous les Français, parce qu'on avait bien compris que derrière ce pass sanitaire, c'était évidemment pas pour répondre à une logique sanitaire en soi, c'était surtout pour inciter les Français à se faire vacciner. Donc finalement, c'est une mesure qui n'était pas dite telle qu'elle était, avec la vision qu'il y avait derrière. Et donc, elle n'était pas très honnête. Et en plus, elle participait à diviser les Français les uns contre les autres, encore une fois, sans répondre à aucune logique sanitaire. Donc, je pense que c'est bienvenu de pouvoir effectivement adapter à chaque situation. Et on voit bien que le pass sanitaire, il a un effet aussi sur le chiffre d'affaires d'un certain nombre de commerçants, de restaurateurs, par exemple, et plus encore dans les zones rurales, par exemple, où vous avez un rejet de la vaccination qui est plus important que dans les grandes métropoles, par exemple. Donc évidemment, c'est bien de l'adapter, mais au départ, il aurait fallu lancer la vaccination obligatoire pour tous les Français, plutôt que de rentrer dans cette complexité du pass sanitaire.
Prisca Thévenot, une mesure hypocrite, dit en quelque sorte Céline Hervieux du Parti Socialiste.
Non, je peux entendre.
De La République En Marche.
Bien sûr, je peux entendre ces sujets dont on a largement débattu au mois de juillet, hein, même si dans l'urgence, les débats ont quand même eu lieu, et heureusement qu'ils ont eu lieu. Mais sur la vaccination obligatoire, posons les choses très clairement. Opposer vaccination obligatoire et pass sanitaire, ça pose une question très pratico-pratique. Ça veut dire que demain, on aurait rendu la vaccination obligatoire, les gens auraient dû se dire t'as la vaccination, tu me le montres, tu peux t'asseoir, c'est bon, tu peux dîner ici, tu peux prendre ton café. Ça serait revenu exactement de la même façon. Donc je pense qu'il faut sortir de ces postures politiciennes. Et comme le disait Patrick Karam, hein, on n'est pas du même mouvement. Mais je pense qu'il y a aussi, il fallait le prendre en compte, l'acceptabilité des Français par rapport aux mesures qui allaient être annoncées, alors que la crise épidémique était en train de reprendre. Et que ça faisait aussi un an et demi qu'on avait cette crise sanitaire derrière les pattes. L'objet de ce pass sanitaire était d'une, de créer des digues sanitaires, mais bien évidemment, et ça n'a jamais été nié, d'inciter fortement et expressément à la vaccination. Donc je pense que refaire le débat aujourd'hui, pass sanitaire, vaccination obligatoire, je pense que ça n'a pas grand sens, surtout quand on voit le succès qu'a eu le pass sanitaire et que trois quarts des Français ils sont favorables. Et même aujourd'hui, quand on interroge, j'ai écouté un peu dans les médias, etc., ce qui se disait, et les Français qui avaient été interrogés, aussi bien les Français que les professionnels qui doivent se servir du pass sanitaire pour exercer, ils le disent. On n'est pas spécialement pour que le pass sanitaire disparaisse du jour au lendemain. Parce qu'on n'est pas quand même bête. On voit ce qui s'est passé au cours des deux dernières années. Et que ce virus, malheureusement, est extrêmement imprévisible et peut revenir extrêmement vite. Donc il faut éviter le stop and go.
Allez, on fait une toute petite pause. On se retrouve tous les quatre. Dans un instant, dans Punchline, on entendra le président Macron demander pardon aux harkis. C'était à la mi-journée à l'Elysée. À tout de suite dans Punchline.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
On se retrouve avec Prisca Thévenot de La République En Marche, Céline Hervieux du Parti Socialiste, Patrick Karam, libre vice-président de la région Île-de-France, et François Buponi, député apparenté Modem du Val-d'Oise. Emmanuel Macron a reçu les harkis aujourd'hui à la mi-journée à l'Élysée pour franchir un nouveau cas, un nouveau pas vers la reconnaissance de la responsabilité de la France dans les souffrances de ces anciens combattants aux côtés de l'armée française durant la guerre d'Algérie. Écoutez la façon dont il a formulé cette demande de pardon.
La France leur a lâché la main et leur a tourné le dos. Face à ceux qui l'avaient loyalement servi, notre pays n'a été fidèle ni à son histoire, ni à ses valeurs. Au nom de la France, je dis aux harkis et à leurs enfants, à voix haute et solennelle, que la République a alors contracté à leur égard une dette. Aux combattants, je veux dire notre reconnaissance. Nous n'oublierons pas. Aux combattants abandonnés, à leurs familles, qui ont subi les camps, la prison, le déni, je demande pardon.
Céline Hervieux du Parti Socialiste. Il fallait demander pardon. Il faut s'engager sur ce chemin de la repentance par rapport aux harkis.
Je pense que c'est important de le faire, en effet. Mais vous savez, Macron n'est pas le premier président à évoquer ce sujet. Déjà en 2016, François Hollande l'avait fait, avait reconnu solennellement la responsabilité de la France dans les conditions inhumaines qui avaient été réalisées dans ces camps, notamment le massacre de ceux restés en Algérie et la responsabilité du gouvernement français dans le rapport et le traitement qui a été donné à ces harkis. Donc c'est un sujet qui est évidemment important pour réconcilier finalement aussi une partie des Français qui sont issus de cette histoire, issus de cette immigration. Et je trouve que c'est toujours intéressant la manière dont finalement l'histoire avec un grand H rencontre au celle de la petite histoire, des destins individuels, des familles aussi, des récits familiaux. Et la manière dont c'est dit, qu'il puisse y avoir des mots qui soient posés, c'est extrêmement important justement pour réparer, pour rendre justice, pour reconnaître aussi les erreurs qui ont pu être commises. Et donc dans ce sens, c'est important qu'on en parle.
Et Prisca Thévenot, Emmanuel Macron va plus loin que François Hollande. Il demande pardon.
Mais effectivement, comme vient de dire Céline Hervieux, il ne s'agit pas d'un des premiers pas de l'histoire sur ce sujet-là. Emmanuel Macron s'inscrit dans une continuité. Effectivement, marque marque un temps un peu plus fort, parce que c'est aussi un sujet qu'il mène depuis le début de son quinquennat, qui est d'en finir, en tout cas d'essayer d'en finir avec les conflits mémoriels qui viennent saper l'union nationale qu'on peut commenter par ailleurs. Donc oui, il s'agit de faire un pas de plus dans la reconnaissance des manquements qu'on a eu par rapport aux harkis, mais plus généralement que la République a eu par rapport à ses valeurs.
Patrick Karam, demander pardon, c'est bien. Mais il faut évoquer tous les aspects de cette guerre d'Algérie.
Alors, c'est mieux que ce que faisait Georges Frêche à l'époque, qui traitait les harkis de sous-hommes. Mm-hmm. Souvenez-vous de cette séquence qui était absolument abominable, élu socialiste. Alors, oui, on a une responsabilité envers les harkis et leur sort. Je vous rappelle quand même qu'il y a eu entre 60 000 et 70 000 morts exécutés en Algérie. Et puis, ceux qui sont arrivés ici sont arrivés dans des conditions compliquées. Mais nous avons aussi des Européens qui ont été massacrés. J'aimerais qu'on parle et qu'on pense aussi à eux. Le massacre d'Oran, nous avions nos soldats à côté. On aurait pu sauver les Européens à Oran. On les a laissés se faire massacrer alors même que quelques semaines avant, on leur avait dit « Vous inquiétez pas, tout ira bien. Evian, le contrat d'Evian va vous...
Les
accords d'Evian vont vous protéger. Ne partez pas, tout va bien. » Et nous avons vu ce qui est arrivé. Ils ont été torturés, pendus à des crocs de boucher, les femmes violées, les enfants fracassés, des femmes enceintes éventrées, ça a été une page abominable. J'attends encore les excuses de l'Algérie. D'ailleurs, lorsque le président de la République s'amuse à aller demander pardon, on dirait qu'il est chrétien, ce président de la République, c'est la repentance à chaque bout de rue. Lorsqu'il va demander pardon aux Algériens, j'aurais aimé qu'il demande aussi le même geste aux Algériens et qu'il y ait une relation réciproque. Et je demande que les Algériens eux-mêmes, l'Algérie s'excuse pour tous les crimes commis sur le territoire algérien. Et je veux dire une chose au président de la République, parce que ça me choque profondément. Moi, je suis antillais. L'esclavage chez nous, c'est un crime contre l'humanité, parce qu'il n'y a pas plus abominable que ça. Et considérer comme le président de la République, parce qu'il l'a dit, que la colonisation, c'est un crime contre l'humanité, c'est une façon de relativiser l'esclavage. Et je ne l'accepte pas. Je voudrais qu'il mesure ses propos quand il parle d'un certain nombre de phénomènes. Je suis conscient qu'il y a parfois des actes électoraux, mais cet acte-là qui consiste à considérer la colonisation comme un crime contre l'humanité, c'est une erreur politique. J'ajoute un dernier point.
Juste un tout petit mot sur Georges Frêche que vous évoquiez. Il a été relaxé concernant le fait qu'il ait traité certains harkis, non pas tous les harkis, de sous-hommes.
Oui, vous ne traitez pas des hommes de sous-hommes.
Ses propos ne concernaient pas,
vous savez
évidemment. Non, mais la précision est importante.
Oui, mais si vous avez raison de le préciser. Vous savez pourquoi il l'a fait ?
Il a été relaxé
par la justice. Parce que sa politique était contestée par des gens dont il pensait qu'il devait être obligatoirement à gauche. C'est toujours la même chose. Okay. Quand la diversité n'est pas à gauche, eh bien, il y a toujours ce procès en sous-humanité.
Un dernier mot que François Pupponi s'exprime.
Oui, dernier mot. C'est le en même temps. Moi, je me souviens, pour les harkis, Darmanin est allé mettre une gerbe il y a un an. Cette gerbe a été déposée où ? Monument des martyrs du FLN. FLN, ce sont ceux qui ont persécuté les harkis et les Européens. C'est dû en même temps. Il y a un moment, il faut sortir de cet en même temps et qu'on trace des voies claires, simples et précises.
François Pupponi, sur ce que
vient de dire
Patrick Karam.
Le président de la République a raison d'aborder ce sujet, parce que c'est un sujet qui mine notre République depuis maintenant trop d'années, 60 ans, et donc il faut arriver à crever l'abcès et qu'on soit capable de regarder cette guerre d'Algérie. D'abord, on a eu du mal à le nommer une guerre, il a fallu attendre 50 ans pour que les fameuses lois mémorielles reconnaissent que c'était une guerre, que cette guerre a été ce qu'elle a été, et qu'on dise toutes les horreurs des deux côtés. Si effectivement on reste uniquement sur la repentance de la France qui s'excuse, alors ça serait une erreur. Il faut dire que la France a commis des erreurs, mais que l'Algérie a aussi commis des crimes.
Vous pensez réellement que l'Algérie va s'excuser ?
Non, mais que la France le dise, que le président de la République le dise. Parce que sinon, on est dans un pays où des jeunes issus de l'immigration, en particulier algérienne, considèrent que la France les a colonisés, victimisés, et donc la France passe son temps à se repentir, et donc ça les conforte dans leur situation de victimisation. Il faut aussi expliquer que des Français ont été victimes et que l'Algérie n'a pas fait aussi que les choses très bien. Et donc, si le président de la République est capable, et je crois qu'il est capable, de dire ces deux vérités, alors peut-être que l'on peut imaginer un avenir commun plus serein. Aujourd'hui, on voit bien que les choses ne sont pas faites comme il faudrait. Je répète, moi j'attends beaucoup de ce qui va être dit autour du 17 octobre. C'est le 60e anniversaire du 17 octobre 61, durant lequel une manifestation qui a été organisée et où la police française, à la demande du préfet de l'époque, Maurice Papon, a jeté d'autres Français au-dessus de la Seine parce que algériens. Donc ce sera une deuxième forme de repentance, mais la troisième partie du discours devait être sur la responsabilité de l'Algérie.
Céline Hervieux, demander encore une fois des excuses, en tout cas des explications à l'Algérie? Ça fait partie de ce que vous envisagez?
Ça peut être important d'avoir une réciprocité, de toute façon, effectivement, à la lecture d'un conflit passé et de reconnaître les responsabilités de chacun. Mais je ne trouve pas forcément bienvenu le fait d'opposer la reconnaissance du statut de victime entre les uns et les autres. Là, il s'agissait du sujet des harkis. Il y a un certain nombre de personnes, de jeunes en France, qui sont issues de cette histoire-là. Donc, le rôle du gouvernement français, c'est d'abord de reconnaître sa responsabilité. Voilà, il ne peut pas parler au nom du peuple algérien ou du gouvernement algérien. Donc, notre rôle, c'est déjà de reconnaître notre part et notre positionnement étatique, les prises de décision qui ont été faites à ce moment-là. Donc, c'est ça qui est important de reconnaître. Et on n'oppose pas les victimes les unes aux autres.
En tant que président de la République française, il peut parler au nom des victimes françaises aussi. Il ne peut pas parler qu'au nom de ce qu'a
fait.
Moi, je connais beaucoup d'anciens combattants d'Algérie qui aimeraient que le président de la République ait une parole pour les victimes françaises. Voilà. Et donc, il faut faire les deux.
Madame, je vais vous dire, de manière très, très apaisée et très tranquille, ce que vous faites là, c'est du révisionnisme. Ça veut dire que vous considérez que l'histoire, il faut saucissonner l'histoire et ne prendre que la partie qui nous intéresse. Il y a une histoire. Cette histoire de l'Algérie et de la France, c'était une histoire de la France coloniale à l'époque. C'était une histoire de la France avec un département français d'Algérie. C'est une histoire qui nous a concernés et pour lequel il faut avoir un regard global. Vouloir séquencer les choses seulement lorsque la France est mise en cause, c'est une erreur. C'est une erreur politique, c'est aussi une erreur. Et vous l'avez rappelé, cher Pupponi, j'oublie ton prénom, François, cher François, tu as rappelé qu'effectivement nous avons des descendants d'Algériens ici, qui ont cultivé, il y a une sorte de culte de la victimisation, ça introduit la haine dans notre pays, il faut apaiser toutes les communautés d'origine X, Y et Z qui sont dans notre pays, en ayant une lecture dépassionné, correct et juste de l'histoire.
Vous voulez répondre ?
Oui, bien sûr. Il ne s'agit pas de séquencer forcément, mais il peut y avoir un temps aussi d'expression sur chacun des sujets. Donc là, en l'occurrence, il s'agissait des harkis en particulier. Donc c'est juste à ce titre-là.
Non, mais,
parce que vous entrez sur cette thématique-là.
Où est l'autre temps ? Pardon.
Probablement, il arrivera.
Mais pour l'instant, je ne le vois jamais venir.
Mais là, dans ce dont il était question aujourd'hui.
Oui, mais attendons de voir les choses. Moi, j'attends encore qu'on parle. On a parlé des harkis, c'est bien. Et c'était nécessaire de faire un pas de plus. Et les Européens qui ont été victimes de ce massacre-là à grande échelle, est-ce qu'on en a parlé? Est-ce qu'il en a parlé? Est-ce que c'est parce qu'on est harki qu'on doit être effectivement victimisé?
Oui, en fait,
et les Européens, c'est pas le cas. Et puis deuxièmement, moi je vous le dis, chaque fois qu'on parle de cette histoire-là, il faut en parler dans la globalité. Et je vais vous donner un exemple. Napoléon, vous allez dire que ça n'a rien à voir, oui. Napoléon, on glorifie Napoléon. Mais nous, à un moment donné, originaires d'outre-mer, on a dit oui, il faut glorifier Napoléon, il fut un grand homme, mais il a aussi rétabli l'esclavage. Et lorsque vous ne parlez que du côté positif et vous oubliez l'esclavage, eh bien vous tronquez l'histoire et on ne l'accepte pas. Il faut faire la même chose pour l'Algérie. Il faut parler de toute l'histoire et pas simplement d'une petite vision étriquée de l'histoire.
Oui, complètement. Je vais vous rejoindre un peu sur les deux. C'est fait que déjà, c'est prévu, ça a été annoncé, il y aura deux prochains discours, mais je pense qu'il faut aussi accepter qu'il y ait des temps. Ça veut pas dire que l'un, les temps ne veulent pas dire qu'on priorise au détriment d'autres faits, mais qu'il faut accepter que ça va aussi prendre du temps. On parle quand même de quelque chose qui a eu lieu il y a plusieurs dizaines d'années. On est vraiment sur des choses extrêmement profondes. Donc le pire qu'on pourrait faire en ce moment, nous en tant que responsables politiques, en tant que commentateurs de l'actualité, ça serait justement de revenir remettre du sel sur ces plaies. Ça vient d'être mis en place, on a entendu...
Vous plaisantez. Alors. C'est quoi l'hymne national algérien?
Mais non,
l'hymne national algérien pointe du doigt la France.
L'hymne national
algérien nous stigmatise, nous condamne. Appelle à la haine contre les Français contre la France. Non, mais arrêtez ce petit discours un peu lénifiant et angélique. Nous avons une responsabilité collective aujourd'hui, c'est celle d'ouvrir l'histoire dans toute son amplitude. Les temps aujourd'hui, ce sont des séquençages qui, en réalité, allument...
Très clairement, je pense que vous n'avez pas compris ce que je voulais dire parce que vous ne m'avez pas laissé finir ma phrase, mais le sujet très simple est de dire oui, ce temps n'est pas facile parce que justement il s'agit d'en finir avec ces conflits mémoriels. Mais si on vient remettre du débat en disant je t'ai demandé pardon, tu ne l'as pas fait, mais si tu l'as fait et tu ne l'as pas fait selon les propres mots, ça ne va pas le faire.
Non,
donc là, le sujet...
On continue cette conversation dans un instant dans Punchline, on fait une toute petite pause, on reviendra sur ce point très précis et on évoquera aussi la crise des sous-marins entre la France, l'Australie et les États-Unis. À tout de suite.
18h-20h sur Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline avec nos débatteurs. Prisca Thévenot de La République En Marche. Vous vouliez répondre à Patrick Karam à propos de cette double vision, encore une fois, de ce qu'il faut faire ou pas faire concernant non seulement les harkis, mais aussi la responsabilité de l'Algérie.
Non, mais ce que je disais de manière très simple et très rapide, c'est que reconnaître des faits, ce n'est pas nier les autres. Et bien évidemment, ce temps va arriver, puisque deux prochains discours ont été annoncés dans l'allocution du président de la République ce matin.
Alors, Patrick Karam, vous n'êtes pas convaincu?
Un mot, non, pas du tout, parce qu'il a parlé des harkis, mais il n'a parlé que de la responsabilité de la France, en France hexagonale, dans la France, voilà. Et les massacres des harkis, des marquis qu'on a... les harkis qu'on a désarmés là-bas. Et je vous ai rappelé qu'il y avait 70 000 à 80 000 morts assassinés dans des conditions atroces. Et le massacre des Européens, peut-être aussi le temps de rappeler cette affaire-là. L'histoire, madame, ne peut pas se saucissonner et ne peut pas se diviser en fonction de ses propres petits intérêts, sa propre petite lecture, parce qu'on finit par alimenter la haine entre les uns et les autres. D'un côté, les Européens se disent « Ben voilà, c'est toujours la même chose, nous sommes les salopards et nous sommes les coupables » et ne l'acceptent pas. Et de l'autre, vous victimisez les Français d'origine algérienne qui se disent « Ben voilà, la France, toujours la France, rien que la France, même les harkis qui ont soutenu la France, regardez comment ils ont été traités. »
Je pense que sincèrement, on doit reconnaître au président de la République qu'il a au moins le mérite, lui, d'avoir des sujets. François Hollande l'avait fait, et l'a fait y compris sur le 17 octobre. Il l'avait fait aussi sur le 19 mars, puisque c'est une loi qui avait été votée pour reconnaître le 19 mars. Mais il faut qu'on soit capable d'aborder le sujet. Voilà. Après, bien ou mal, l'essentiel c'est de le faire bien, l'intérêt c'est de le faire bien, mais il faut le faire. Parce que c'est en train de pourrir notre pays. C'est en train de gangréner notre pays. Le fait que depuis 60 ans...
Dans les banlieues ?
Oui, bien entendu. Mais bien entendu, parce que dans les banlieues, les jeunes considèrent que la France n'a fait que des exactions et donc ont un ressenti vis-à-vis de la France. Et donc, on ne peut plus continuer comme ça, à avoir une partie de notre jeunesse qui peuvent haïr la France parce qu'on leur a inculqué une certaine partie de l'histoire parce que l'autre partie ne veut pas en parler. Donc parlons-en. Les anciens combattants d'Algérie ont besoin d'en parler aussi. Les rapatriés ont besoin d'en parler. Les Français ont besoin de savoir. Donc enseignons vraiment cette histoire. Disons tout ce qui s'est passé pour essayer d'avoir un avenir commun. Si on ne le fait pas, alors je suis pessimiste.
Ok. Un dernier mot, Patrick Karam.
Oui, je suis d'accord globalement avec cette analyse. Je dis simplement que lorsqu'il ne parle que des harkis et de la responsabilité de la France, eh bien, il va chercher un électorat. L'électorat harkis, non, mais pardon, c'est que c'est un enjeu électoral. Toute la droite, parce qu'il vote plutôt à droite, toute la droite cultive cet électorat. Pieds noirs, harkis. Eh bien, là, il se positionne clairement à droite.
Ok. Prisca Thévenot, un dernier mot? Ou c'est la fin? Allez, on embraye sur Joe Biden qui se dit impatient de parler à Emmanuel Macron, évidemment, après la crise liée à la rupture du contrat des sous-marins avec l'Australie. Demain, à l'ONU, il y a une assemblée générale où il y aura peut-être des discussions. Pour l'instant, rien de prévu entre Jean-Yves Le Drian et son homologue Blinken. François Pupponi, jusqu'où peut aller cette crise diplomatique? On a rappelé nos ambassadeurs d'Australie et des États-Unis. Visiblement, la France manifeste son courroux. Qu'est-ce qu'on peut obtenir? Comment regagner, encore une fois, et relier les liens du dialogue? Et qu'est-ce qu'on peut obtenir, au fond, nous, les Français?
Alors, il faut regarder, déjà, c'est parce que le contrat qui a été signé par les Américains n'est pas neutre.
Avec l'Australie.
Avec l'Australie, c'est-à-dire des sous-marins à propulsion nucléaire qui ne respectent pas forcément les normes internationales et donc qui posent un problème de la prolifération des armes nucléaires, c'est un sujet. Donc il faut qu'on redise aux Américains, on est ensemble dans l'OTAN, donc comment on peut, dans ce cadre-là, ne pas être d'accord?
Surtout on ne peut pas sortir de l'OTAN?
On peut toujours. L'OTAN, c'est quand même le président de la République qui a dit que l'OTAN avait un encéphalogramme plat. Je rappelle que pendant le conflit au Karabakh avec l'Azerbaïdjan et la Turquie, les Turcs ont utilisé les AWACS de l'OTAN pour aider les Azéris à les tuer des Arméniens. Sans aucune condamnation. Donc il y a un vrai sujet. Donc le temps est peut-être venu qu'on aborde tous ces sujets-là en disant on ne peut pas continuer comme ça. Et lorsqu'on est allié, il ne faut pas oublier que les fameux sous-marins français, ils étaient en fait construits par les Français, mais armés par les Américains. Donc c'était un partenariat entre alliés. Et donc ça ne peut pas se passer comme ça. Donc là, avoir rappelé les ambassadeurs était le minimum. Et je pense que si on va aller plus loin, un qui était vraiment mis en cause parce que vexé au-delà de la vexation qui a été vraiment choqué par ce qui se passait, c'est Le Drian. Parce que c'est lui qui, sous le précédent gouvernement, avait mené les négociations.
En tant que ministre de la Défense.
En tant que ministre de la Défense, qui les a continué. Et donc, il a le sentiment, en tant que ministre des Affaires étrangères, d'avoir été trahi par ses alliés, et ce n'est pas acceptable.
Céline Hervieux, est-ce qu'il faut aller plus loin, envisager la sortie de l'OTAN, continuer sur ce chemin de la crise?
Écoutez, je ne sais pas s'il faut aller jusqu'à sortir de l'OTAN, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a de moins en moins de leviers pour faire face justement à des puissances comme les États-Unis, la Chine. Il y a visiblement un conflit, une tension très importante sur ce pouvoir vis-à-vis de ce territoire de l'Indo-Pacifique. Donc, il y a des enjeux aussi diplomatiques, industriels importants. Moi, évidemment, quand j'ai eu cette nouvelle, j'ai été très choquée et déstabilisée en pensant à tous ces hommes et ces femmes aussi derrière, les travailleurs qui... perdent la perspective voilà, de leurs emplois. Donc c'est quand même dramatique, c'est des drames aussi humains. Hein. Il faut se souvenir derrière ça. Et puis surtout, ce qui m'a marqué, c'est le manque de réaction au niveau européen. Alors là, on a vu que la présidente de la Commission européenne,
Ursula von der Leyen, vient de voler au secours de la France.
Voilà, en disant que c'était inacceptable. Bon, il y a quand même eu un certain délai quand même de quelques jours avant que ça réagisse. Donc ça pose de vrais sujets de fond voilà, sur cette Europe de la défense, sur la manière dont on arrive aussi dans la négociation industrielle à faire front contre ces deux pôles. Et en l'occurrence, pour l'instant, on n'y arrive pas. Et ça a été vécu, en effet, comme une forme d'humiliation. Et c'est quelque chose qui est quand même relativement grave.
Patrick Karam, comment sortir de la crise ? Par le haut, évidemment, pour la France.
Oui, enfin, comment sortir de la crise ? Moi, la seule sortie de crise, c'est que la France ne va pas aller trop loin. Et parce que tout simplement,
les
relations... Mais en quels moyens a-t-on ? On a face à nous un géant. Un géant duquel on dépend pour notre sécurité. Je parle des États-Unis. On dépend aussi de nos échanges économiques avec les Américains. Évidemment, ils vont nous faire de la calinothérapie. Évidemment, ils vont nous dire je t'aime et non, c'est un malentendu. Et bien sûr qu'il y a des clauses d'indemnisation dans le contrat. Ça ne remplacera jamais ce qui aura été perdu. Moi, je note une chose. Nos alliés, eh bien, ils sont inexistants. L'Europe aurait pu tout de suite dire les négociations avec l'Australie sont gelées. Vous voyez que dans 2018 ou 2019, des négociations d'ouverture de marché ont commencé avec l'Australie. Et la France avait beaucoup poussé à faciliter les choses. L'Europe aurait pu dire, ben là, stop, terminé, on n'en parle plus. Mais non, ils ont dit, on fait comme... Mais non, pour l'instant, ça n'est pas l'ordre du jour. L'OTAN, et c'est bien de le rappeler, parce que là, il y a une manifestation arménienne samedi, dimanche, devant l'ambassade azérie, devant l'ambassade d'Azerbaïdjan, effectivement. Il faut rappeler ce qui s'est passé. L'OTAN laisser faire la Turquie. L'OTAN ne défend rien, comme l'Europe d'ailleurs. On a l'impression d'être dans deux systèmes qui, aujourd'hui, ne défendent rien. Et ne défendent pas les intérêts des uns et des autres.
Mais on quitte l'OTAN, alors.
Macron, sortir de l'OTAN, le gouvernement a déjà dit que ce n'est pas possible et ce serait contre-productif. Parce
Pourquoi
que si on sort de l'OTAN, on se prive de voies de dialogue. D'abord, on ne peut pas sortir de l'OTAN intégralement. Le général de Gaulle était sorti de l'OTAN intégré. Et Nicolas Sarkozy avait réintégré la France dans ce commandement militaire intégré. Dans l'intérêt de la France même, pour avoir des informations stratégiques, le gouvernement actuel considère que ça n'est pas possible. Donc, les moyens à la disposition du gouvernement, finalement, c'est plutôt faible. Peut-être qu'on devrait regarder à ne plus faire travailler un certain nombre de banques ou de grosses sociétés de conseil, y compris ceux qui, aujourd'hui, conseillent le gouvernement. Parce que les Américains, avec le Patriot Act, exigent de tous... les sociétés américaines de dire exactement toutes les informations dont ils ont connaissance sur des États étrangers. Ça veut dire qu'ils nous pistent sans avoir besoin de faire aucun effort.
Alors, Prisca Temneau, votre réponse rapidement avant la fin de
l'émission. Oui, très rapidement. Non, je pense que ce que ça pose sur le sujet, effectivement, c'est de travailler l'Europe de la défense, comme ça a été dit justement par Céline Hervieux juste avant, et c'est par là que ça va arriver. On doit solidifier absolument les compétences actuelles de l'Europe et aller également vers d'autres sujets au regard du contexte géopolitique que nous connaissons. Et notamment... Vraiment, alors que dans quelques semaines, quelques mois, nous allons prendre la présidence de l'Europe. La France va prendre la présidence de l'Europe.
Et donc, début janvier.
Hein. Début janvier, exactement. Donc, quelque part, je trouve que c'est peut-être un petit peu à point nommé aussi que ces sujets arrivent sur le devant de la table, parce que nous sommes en pleine campagne présidentielle et qu'il est aussi important, du coup, de questionner les uns et les autres sur leur position par rapport à l'Europe. Et aujourd'hui, force est de constater que le président de la République est le seul réellement à incarner et à porter un projet pro-européen et allant vers une Europe de la défense. Ouais. Ensuite, j'aimerais aller sur un dernier point. Qui est d'un point de vue juste, qui est juste sur une posture. Je pense que plutôt que de venir questionner si la France a été humiliée ou pas, humiliée un peu ou pas, etc., sur ce dossier, c'est plutôt la voix des États-Unis qu'il faut questionner. Parce que là, ça pose une question de la crédibilité des États-Unis dans le monde et par rapport à leurs alliés, qu'ils ne considèrent absolument pas comme des partenaires, mais comme des affidés.
Alors, un dernier mot,
ouais,
Patrick Caram,
c'est quand même assez cocasse de considérer que les Américains ont d'autres maîtres que l'argent et l'intérêt des États-Unis. Vous pensez qu'on avait éloigné l'ancien président pour mettre Biden et que tout irait mieux, on serait dans le multilatéralisme, la négociation.
Bonnet blanc et blanc bonnet.
Eh bien non. L'intérêt des Américains, c'est les États-Unis. Et ça fait longtemps qu'on a, depuis en réalité Obama, les Américains ont rectifié et réorienté leur politique vers l'Asie. Il faut qu'on tienne compte de ça. Et quant au président de la République, est-ce que vous pouvez lui dire de notre part à tous qui l'écoutons et qui le voyons, ça sert à rien de sauter sur sa chaise comme un cabri en criant l'Europe pour l'Europe. À un moment donné, il faut que tous ses alliés européens soient mis au pied du mur et qu'à un moment donné, ils puissent faire preuve de solidarité.
Espérons qu'ils nous écoutent ce soir sur Europe 1. Merci à tous les quatre d'avoir participé à Punchline sur Europe 1. On se retrouve demain à 18h. Et tout de suite, c'est Stéphanie Loire pour musique. Elle reçoit ce soir Juliette Armanet. Bonne soirée à vous sur Europe 1.
Europe 1, 18h-20h.
Punchline, Laurence Ferrari.